Pression, dépression.
L'émission qui fait mousser les émotions.
Tous les mardis de 8h à 8h30
sur Radio Larzac. Pression, dépression, bonjour. Pression, dépression, c'est l'émission qui fait mousser les émotions une fois par semaine, tous les mardis matins de 8h à 8h30 en direct sur Radio Larzac. Aujourd'hui, au menu de notre émission, on vous parle d'une émotion, d'un état, et aujourd'hui, on vous parlera de l'égocentrisme. Moi. Que moi aujourd'hui, avec autour de la table, derrière les micros, Amélie pour commencer.
Bonjour.
Et puis Franck.
Moi, je vous dis bonjour.
Bien sûr, ils sont toujours à quatre mains derrière les consoles, nos deux barbus, Bruno et Nico. Salut les gars.
Salut.
Ma vie, mon œuvre, mon pédalo, par ces quelques mots, voilà où j'en suis. Aimez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi l'impression d'exister, d'être bien là et de peser de tout mon poids, un peu en surcharge, je l'admets, sur ce bas monde qui m'entoure. Ce bas monde qui tourne autour de moi et qui me donne le tournis. J'adore ce portrait à l'entrée de chez moi, ce miroir qui me reproduit et qui me voit évoluer de jour en jour. Il me rassure. Ne vous inquiétez pas, je vous aime aussi. Certes, parce que vous m'aimez et que vous savez le flatter par vos compliments, mon ego. Pas les masques. Jouez un peu à remplacer les « je t'aime » par des « je m'aime » et assumez votre égoïsme. Vous verrez d'ailleurs que certains tubes deviennent moins fades. Je m'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Et puis entre nous, si je suis égocentré, c'est uniquement parce qu'il y a les autres. Et le psy, qu'est-ce qu'il en dit ?
Alors, je me suis posé la question, comment parler de l'égocentrisme ? Alors, dans les personnes que je reçois, c'est souvent un mot qui revient très très souvent. Du genre, c'est un égocentrique, il ne pense qu'à lui. Et de toute manière, tous les hommes sont égoïstes. C'est tous des pervers narcissiques. Ça y est, le mot est lâché. Hein, c'est le mot à la mode, qui fait fureur en ce moment, c'est le pervers narcissique. À force d'en parler, on devient tous parano, même on a l'impression qu'ils sont partout. Alors, mais comment reconnaître un pervers narcissique ? Ça, vous avez des bouquins qui en parlent et des sites internet à l'appel. Non, ce matin, j'ai plutôt envie de divulguer quelques astuces pour devenir quelqu'un d'égocentrique. C'est vrai, ça doit être génial de se croire au centre de tout. Que toute la lumière, que toute l'attention des autres soit dirigée vers nous. Que chaque parole que nous émettons, eh bien, soit la vérité, la seule vérité. Apprendre à dire « moi je », c'est important. Alors moi, j'ai sauvé le monde, par exemple. Alors c'est vrai, hein. Il y a longtemps, j'ai fait un rêve où le monde était dans une impasse face à la montée du nazisme en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Et j'étais tranquillement chez moi, dans mon garage, en train d'inventer une formule mathématique qui allait révolutionner le monde. Et il y a deux personnes qui sont venues en costume frapper à ma porte pour me demander de résoudre le problème. Et en moins d'une semaine, j'avais supprimé le problème. Et grâce à moi, la paix régnait sur la Terre. Incroyable. Bref, dans nos rêves, on peut se permettre d'être le plus grand égocentrique du monde. Dans la vie, c'est un peu plus délicat de s'aimer et de n'aimer que soi. Alors la première règle, c'est l'humour. Attention de ne jamais faire une blague qui ne fait rire personne. D'ailleurs, le pervers narcissique est un expert dans ce domaine. Et d'ailleurs, vous savez reconnaître un pervers narcissique, comment on reconnaît un pervers narcissique? Hein? Non? Non? Ah ben c'est sa couleur. Voilà, c'est le vert. Voilà. Merci. Voilà. Alors, vous voyez que c'est du travail quand même. C'est, bon, voilà. Tout le monde n'est pas dans cette capacité d'utiliser l'humour à bon escient. Hein, c'est pas facile. Alors, une des deuxièmes règles, c'est de tout savoir. Hein, avoir un avis sur tout. Et user dans votre langage les « je sais », pas besoin de me le dire. Hein, c'est important. Et de répondre aux questions, et surtout d'éviter de répondre aux questions un peu trop cons. Hein, du genre « de quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV ?» Hein, surtout, ne vous abaissez pas à gratifier la personne de votre savoir. Alors, une troisième règle, c'est cultiver le goût du mystère. Apprenez à être inaccessible, afin de bien rester au centre. Moins on en sait sur vous, et plus on attire l'attention. Important aussi de se distinguer des autres par un détail vestimentaire, c'est très important. Hein, le charisme ne suffit pas, il faut la petite touche supplémentaire. Apprendre aussi à parler avec une voix grave, mystérieuse, sensuelle. Et si vous n'avez pas la voix assez grave, il faut s'en donner les moyens. On se met à fumer. Accepter la jalousie aussi des autres. Et pour ça, l'égocentrique doit être au cœur de la communauté. En gros, les schémas et les valeurs que l'égocentrique pense, c'est qu'il vaut mieux être en haut de la chaîne alimentaire qu'en bas. Dans la vie, c'est comme une meute de loups. Il vaut mieux être au centre qu'à la périphérie. Évitez aussi de parler trop de vous. Hein, laissez les autres plutôt parler de vous et en bien, évidemment. En soirée, indispensable de bien tenir l'alcool. C'est très important. Hein, sinon, la statue s'effondre. Hein, si vous vous mettez à monter sur une table, à danser la Macarena nue sur une table, forcément, ça le fait moins. Hein, et à retapisser éventuellement les rideaux des amis, c'est pas très classe. Et pour finir, se construire une petite boîte à réplique, celle qui permet de s'extraire et de prendre de la hauteur et d'être intouchable lorsqu'on essaye de vous provoquer. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Par exemple, apprenez aussi à connaître les moindres failles émotionnelles de ceux qui sont proches de vous, afin de les exploiter lorsque le besoin se fait sentir. Par exemple, si vous savez que votre compagnon ou votre compagne a des problèmes relationnels avec son père ou avec sa mère, de dire de temps en temps « on dirait ton père » ou « t'es bien comme ta mère ». Ça marche à tous les coups. Et une fois que vous maîtrisez toutes ces règles, vous pouvez être fier de votre égocentrisme.
Merci Franck, on continue en musique avec une autre manière de parler de soi, « Ma maison » par Émilie Loiseau. Extrait de l'album « Pays sauvage » en 2009.
Thank you.
L'écho d'Amélie. Un livre, un film résonne sur nous.
Été 1974, Kinshasa, la capitale du Zaïre, actuel Congo, est en ébullition. Dans quelques semaines aura lieu la finale du championnat mondial de boxe poids lourd. Ce match, c'est plus qu'un match, c'est un retour aux origines du berceau noir américain, l'Afrique. C'est aussi 32 heures de concerts de musique noire américaine et africaine, soul, blues, funk, avec notamment B.B. King, James Brown venu pour l'occasion. Les deux boxeurs de ce match sont Mohamed Ali et George Foreman. Foreman, c'est le tenant du titre. Ali, c'est la star de la boxe américaine depuis 15 ans. Il est plus qu'un boxeur aux yeux du monde. Qu'il soit aimé ou non, il marque les esprits par sa personnalité exacerbée et son ego surdimensionné. Son talent en boxe, il le doit notamment à sa rapidité, à sa légèreté dans les déplacements. Sa popularité, il la doit à sa façon de s'exprimer. Il parle beaucoup, il parle fort, il punch autant à l'oral qu'avec son coup droit. Son sujet principal, c'est lui, lui et encore lui, pour dire qu'il est le meilleur. Mais en l'occurrence, il n'a pas tort et il a de quoi être content de lui, c'est un grand boxeur. Et aussi, Mohamed Ali est un des porte-parole du peuple noir américain. Il prend parti, il dit ce qu'il pense, il s'engage dans ses croyances et ses convictions, que ce soit religieux ou social. Donc aujourd'hui, je vous parle du film, du documentaire « When We Were Kings » de Léon Gast. En 1974, Léon Gast, réalisateur de documentaires, est à Kinshasa. À la base, il est censé filmer les concerts. C'est ça son projet. Il a déjà fait des films musicaux et il souhaite poursuivre là-dedans. Et finalement, ce qui se passe, c'est que 4 jours avant la date du match, Foreman s'explose l'arcade sourcilière. Il ne peut pas jouer. Le match est reporté de 6 semaines. Certains partent, d'autres restent, car le match aura lieu. Ali et Foreman se retrouvent donc à séjourner tout ce temps-là à Kinshasa. Et Léon Gast, le réalisateur, change de projet. Il reste pour filmer ses 6 semaines imprévues à Kinshasa avant le match. Le sujet de son film change et devient alors Mohamed Ali. À son retour, Léon Gast a 92 km de pellicule. Il avait les sous pour filmer, mais il n'en a pas pour développer et pour monter. Ce qui fait que son film reste en jachère quelque temps. Et c'est son ancien avocat qui investira et produira le film, sentant bien que ça en valait le coup. Après des années de montage, le film voit le jour en 1997, 23 ans après le tournage. Et oui, ça valait vraiment le coup d'attendre, parce que c'est un formidable film documentaire. Et si j'associe ce film à l'égocentrisme dont on parle aujourd'hui, c'est parce qu'il raconte un événement qui a eu lieu grâce ou à cause de la rencontre entre des personnalités sacrément égocentriques et qui ont eu envie, chacun dans leur domaine, de montrer à quel point ils étaient puissants. Alors d'abord, il y a Don King, l'organisateur du match. Don King, c'est un homme au passé douteux et qui a un besoin fou de devenir important, de devenir le meilleur des promoteurs de match. Et accessoirement, de se faire plein d'argent. Il y a évidemment Mohamed Ali, charismatique, gonflé, drôle, percutant, mais aussi et surtout imbu de sa personne. Et plutôt odieux. On le découvre bien dans le film, dans un autre film, Ali, qu'il est un film de fiction, un biopic comme on dit, un film de Michael Mann. L'autre, George Foreman, n'a pas l'air non plus d'être franchement empathique comme garçon, en tout cas dans le film. Et puis il y a toutes ces stars, ces organisateurs plus ou moins défoncés d'ailleurs, et ce qui est assez drôle, parce que je pense que Léon Gast ne s'est pas privé d'éteindre la caméra à des moments où ils étaient bien perchés. C'était les années 70 en force. Et il y a Mobutu. Alors lui, dans le genre égocentrique, évidemment, bah, c'est le plus fort. Mobutu finance en partie cet événement pour se faire bien voir des Américains. Il débourse donc 10 millions de dollars alors que son peuple meurt de faim. Alors pour rappel, juste un petit peu, Mobutu c'est un dictateur sanguinaire et quelques semaines avant le match, juste pour donner un exemple, il a fait arrêter arbitrairement 1000 personnes supposées être des délinquants. Et puis un jour, comme ça, il en a pris 100 au pif et sur ces 1000 et les a fait tuer. Pour l'exemple. Ainsi, en quelques heures, il a fait de Kinshasa la ville la plus sûre d'Afrique. Pour se faire bien voir des Américains toujours. Et ces 1000 personnes, soi-disant délinquantes là, elles étaient enfermées dans des cellules. Et ces cellules là, elles se trouvaient sous le stade de Kinshasa. Stade qui accueillait le grand match Ali Foreman. Alors ça n'a vraisemblablement pas refroidi les organisateurs ni les joueurs. Donc ce dernier sujet plutôt dérangeant là dont je viens de vous parler, c'est tout simplement dit dans le documentaire. Et ça montre bien jusqu'où Don King, Mohamed Ali, George Foreman et les autres étaient prêts quand même à aller pour montrer leur puissance, leur renommée, leur impact culturel et pour avoir plein de sous aussi. Bah, le titre parle de lui-même, When We Were Kings, quand nous étions rois. Bon, ce documentaire est vraiment très bien construit, très bien filmé, très bien monté. Le rythme est prenant. Pas besoin d'aimer la boxe pour aimer ce film. Ça raconte Mohamed Ali, oui, mais aussi ça raconte une époque, une culture, un choc entre l'Amérique et l'Afrique. Et si ce match et ces concerts ont été organisés au Zaïr, c'est symbolique. Et il y a vraiment cette envie de retour aux racines du peuple nord-américain, mais le décalage reste palpable. Et la scène où Mohamed Ali fait son footing suivi par des Zaïrois, cette image est à la fois émouvante et dérangeante, et ça évoque bien une rencontre, mais aussi ça évoque un écart entre ces deux cultures. Et c'est un des rares moments du film où Mohamed Ali se tait. Du moins, il ne parle pas trop. Il court et il se tait. Et il se pourrait bien que ce silence soit bien plus parlant que la plupart des mots.
Oh,
La chanson qu'on vient d'entendre, c'est Tomorrow de Salif Keita, qui est une chanson qu'on retrouve dans le film Ali de Michael Mann.
Eh bien, on va aller vers le bout de cette émission de Pression des Pressions consacrée à l'égocentrisme en partant d'une chanson de Barcella qui s'appelle « Je dois être obligatoire au bac ».
Je veux être obligatoire au bac pour que les gens parlent de moi. Comment était-il Barcella et qu'ils analysent méthodiquement ma vie, mon œuvre, mon entêtement, et qu'il m'apprenne par cœur bêtement, et qu'il me comprenne s'ils en ont tant. Je veux qu'ils se plaignent des heures durant, car il est vrai que c'est chiant d'apprendre ma vie. Je veux être obligatoire au bac, un sujet de 4 heures à l'écrit, un coefficient indéfini. Les notes ne pourront qu'être bonnes, et je ferai partie des grands hommes qui sont obligatoires au bac. Je prouverai au monde que je suis quelqu'un. Tu vois, maman, je m'en sors bien. Preuve que l'entêtement j'ai gagné. Et les sales moments sont passés. Et le sale mot, maman, a germé. Verrai-je mon rêve, maman, s'achever. Sujet au bac, à lauréat, parce que je le vaux bien, un sujet bâclé. Bien trop de fois, on n'y comprenait rien, rien.
Dépression, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Amélie et Franck, merci à vous deux.
Merci, bonne
merci.
Journée à tous.
Bonne journée.
La playlist, c'est Mézig, avec le soutien d'Amélie, et à la technique, Bruno et Nico. Rendez-vous en podcast pour écouter l'émission vendredi dès 18h30. Et sinon, la semaine prochaine, même jour, même heure, on vous parlera de la fidélité.